Cristian, j'espère que vous n'attendez pas de moi des discours. Je ne suis pas un orateur, malgré qu'on dit que j'ai... de temps en temps. Mais vraiment, je veux dire, je suis touché beaucoup, peut-être plus, qu'à Oxford ou en Amérique, quand on m'a proposé le doctorat, je ne sais pas de quoi. Je suis vraiment touché ici. J'espère que les Anglais et les Américains ne sont pas présents ici. Ils ne seront pas fâchés. Il faut vous dire que vous avez parlé de mariage. Ma fille a déjà été mariée chez vous ici il n'y a pas longtemps. Et même nous, un peu pas trop loin. Ce que je voulais vous dire, je suis vraiment profondément reconnaissant à vous, monsieur le maire, et à toutes les municipalités qui me font un si grand honneur. Je suis reconnaissant à vous tous des amis qui sont venus aujourd'hui pour moi. Je me demande... si j'ai mérité ce grand honneur, vraiment un grand honneur, parce que on m'a dit souvent de moi que je suis un artiste soi-disant fantastique. Mais il faut vous dire que quand je me rappelle, il y en a, je ne sais pas combien d'années déjà passées, je ne peux pas le prononcer, peut-être 50, peut-être plus, en plus peut-être. Quand j'étais garçon et j'ai marché sur les toits de ma ville natale, où j'étais accompagné seulement par la pauvre lune de ma ville natale, je n'ai jamais pensé que je deviendrais citoyen d'honneur. Et où? En France, dans la ville de France, dans le pays d'art. C'est une chose incroyable. Citoyen d'honneur ici, ça dépasse ma fantaisie. Vous voyez, je ne suis pas assez fort. Enfin, on disait souvent qu'on n'est jamais prophète dans son pays. Mais ça... c'est seulement dans son première patrie, peut-être. Mais dans la deuxième patrie, qui est la patrie de, il faut dire la vérité, de toute l'humanité, de l'humanité culturelle, ça, c'est un trop grand honneur. Et je me demande si vraiment j'ai mérité ça. Mais j'espère, en se promenant ici, dans les collines, parmi les montagnes, j'espère encore se promener. Et j'espère être assis pas mal encore de temps dans mon atelier pour travailler et tâcher de justifier cette sympathie qu'il veut me montrer aujourd'hui. Je sais que c'est très difficile. Aujourd'hui, dans le temps où souffle l'atmosphère pas très artistique et souvent même pas très amicale, mais... quand je pense que nous habitons ici, dans un pays méditerranéen, comme on dit, ici où étaient les sources de toutes les de grandes cultures et de grandes religions, j'ose penser que peut-être j'aurai encore le temps de faire quelque chose et même laisser ici des signes plus tangibles chez vous, où vous pouvez se rappeler que j'ai existé. Et pour justifier toute votre sympathie, vraiment, que je sens, parce que ce sont des amis qui sont venus chez vous, chez moi aujourd'hui. Merci. Vraiment, j'avais une chance une nuit de découvrir ce village de Vence. Je crois que je ne le mérite même pas. C'est, pour moi, c'est un miracle. Alors, je m'installais ici. Je savais bien que Renoir habitait pas loin. Le grand Renoir. Le grand Bonnard habitait ici. Il a découvert des miracles dans la peinture. Eh bien, je me lançais. Par hasard, j'ai trouvé une merveilleuse maison. Et je me prépare de faire quelque chose. De faire de la peinture.
Enfin, direz-vous plaisamment, Marchagall, enfin vous allez faire quelque chose. C'est très plaisant. Marchagall, je sais aussi que maintenant vous avez un violon d'Ingres. Vous avez également la céramique. Parlez-nous de cette céramique. Est-ce la glaise de Vence qui vous a attiré?
Eh bien, je dois vous dire, franchement, c'est encore une découverte pour moi, cette terre glaise. J'ai commencé, je voulais faire un petit peu la céramique. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Tout à coup,
J'ai comme une chose, une brûlure dans la main, cette terre glaise, ça m'a commencé à chatouiller et j'ai découvert que ce n'est pas une aquarelle, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas une gravure, c'est la céramique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une chose spéciale. Et je suppose que maintenant, peut-être, je commence à deviner qu'est-ce que c'est et je fais en tout une 25 pièces. Quand j'aurai une centaine, eh bien, ou 60 ou 75, j'exposerai, vous allez voir, vous allez juger.
Nous sommes à Vence chez Marc Chagall. Et, comme toujours, Chagall est au travail. Il a quand même accepté de nous recevoir très gentiment. Et je vais lui poser la première question. Marc Chagall, vous continuez à faire des illustrations. Et après Les âmes mortes et Les fables de La Fontaine, vous vous êtes attaqué à l'illustration de la Bible qui vous tenait particulièrement à cœur. Eh bien, j'aimerais savoir si vous êtes heureux de cette illustration.
Rien ne me rend plus d'une telle joie, si je peux en ce moment me réjouir de quelque chose, que de savoir que la Bible va bientôt sortir dans l'édition de Thériade, Verbe. La Bible avait été commencée il y a longtemps déjà. Elle était commandée par Ambroise Vollard, le même Vollard qui m'avait commandé l'illustration des Amours de Gogol et des Fables de La Fontaine. Et je me réjouis, bien qu'il me semble que l'humanité soit si loin de la Bible. Mais justement, plus elle est éloignée, plus près elle devrait être.
Merci Marc Chagall. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous préparez exactement pour Paris. Je sais qu'il y a une exposition qui est prévue.
Oui, elle aura lieu à la Galerie Maigret, à Paris, au début de juin et durera toute la saison d'été.
Et alors, pourriez-vous nous parler du thème de cette exposition ? Je crois savoir que vous avez choisi un thème et que ce thème est consacré à Paris et que c'est Paris fantastique.
Les Paris tels que je l'ai pour la première fois senti après la guerre et la libération à mon retour d'Amérique. À ma première arrivée à Paris en 1911, je ne l'avais presque pas vu. J'ai ressenti le fantastique de Paris parce que Paris, après Jérusalem, Athènes et Athènes, je vais dire, est une ville immonde qui vous émue tellement. Et dans notre époque tragique, il nous émue encore plus qu'Athènes et Jérusalem, qui ont déjà joué leur rôle historique. Je voudrais comparer Paris avec le destin de l'humanité. Aucune ville ne regarde en ce moment le monde avec de tels yeux.
Eh bien, nous nous réjouissons à l'avance, Marc Chagall, de cette exposition. Et maintenant, j'aimerais savoir si vous pensez revenir au décor de ballet ou de théâtre.
Quand j'ai été plus jeune, tout à fait jeune, je pensais travailler pour le théâtre et le ballet. Et j'ai travaillé à Moscou pendant la Révolution. Je ne sais pas ce qui est devenu ma peinture murale là-bas. J'ai travaillé en Amérique pendant la guerre à deux ballets. Le premier, les scénarios, les décors et les costumes pour Aleko, sur la musique de Tchaïkovski et la chorégraphie de Mertin. Et le deuxième, l'oiseau de feu, sur la musique de Stravinsky et la chorégraphie de Balanchine. En ce moment, il me semble que je suis un peu refroidi. Enfin, je pense que nous avons assez parlé et que c'est mieux de travailler.
Eh bien, je suis tout à fait de votre avis, Marc Chagall, surtout que votre travail est pour nous une joie, mais j'espère tout de même qu'un jour vous reviendrez au décor de ballet et de théâtre. Merci infiniment. Dans sa propriété de Vence, aux Collinettes, Marc Chagall travaille continuellement. Et j'ai l'impression que le soleil du midi, que les fleurs de son jardin, ne l'empêchent pas de continuer son perpétuel travail. Marc Chagall, la peinture vous prend beaucoup de temps, mais il y a également les illustrations, et après les fables de La Fontaine, après les célèbres âmes mortes de Gogol, L'imprimerie nationale a à l'heure actuelle, je crois, sous presse, la Bible. Cette Bible à laquelle vous êtes attaché depuis de très nombreuses années. J'aimerais savoir, Marc Chagall, pour quelles raisons vous avez choisi tout d'abord la Bible ?
J'ai pris la Bible parce que instinctivement, je suis attiré vers cette source dans laquelle je vois le commencement de tout le commencement. Je suis attiré non seulement par des raisons plastiques, formelles, mais parce que je vois là ce qui dépasse les frontières et qui forme un message. Je n'ai pas vu souvent, sauf dans la nature silencieuse, si on peut dire, une autre source de la création humaine comme la Bible. Et je suis toujours reconnaissant à mes parents qui, pauvres gens, m'ont conduit inconsciemment sur ce chemin à tel point que ma maison et ma ville ont été pour moi les plus hautes académies de l'art et de la vie. Si j'ai illustré la Bible, les fables de La Fontaine et Gogol, c'est grâce à deux hommes, le grand éditeur Ambroise Vollard, qui, il a 25 ans, me commandait la Bible comme avant Gogol et les fables de La Fontaine, ainsi qu'à Thériade, l'éditeur du journal Verve, qui a repris ses livres pour les éditer après la mort de Vollard. J'espère qu'en 1956 sortira la Bible avec ses 105 gravures, illustration à laquelle je travaille depuis 25 ans et pour laquelle, en 1931, je fais spécialement un voyage en Palestine.
Eh bien, nous attendons avec beaucoup d'impatience, Marc Chagall, cette Bible, et n'y allons plus particulièrement l'Ancien Testament, n'est-ce pas ? Et j'aimerais savoir maintenant, quand vous êtes venu pour la première fois dans le Midi ?
Je suis arrivé dans le Midi avec la commande des fables de La Fontaine pour Vollard vers 1923, à Toulon et ensuite à Nice. J'ai remarqué pour la première fois cette lumière étonnante qui ne ressemble à celle de nulle part et le monde des fleurs. Ma secrète pensée depuis était de vivre dans le Midi. C'est ce que je fais après la guerre en rentrant d'Amérique. Je me suis installé à Vence où une sorte d'harmonie est toujours devant les yeux.
Marc Chagall, j'aimerais aussi savoir pourquoi vous vous êtes mis à la céramique.
Mon travail pour la céramique, ici dans le Midi, est une autre expérience, une sorte d'approche vers la nature, mais en évitant, si possible, des choses décoratives extérieures qui, il me semble, ne sont pas dignes ni de la terre, ni du feu par laquelle la céramique passe. D'ailleurs, il est très difficile de tromper cette nature. Dans ces temples, on n'entre pas qui veut.
Maintenant, pourriez-vous nous dire les différences qui existent pour le peintre que vous êtes entre la création céramique et la peinture?
On peut dire qu'à travers tout, même avec l'âge, on croit voir clairement devant soi les deux buts. Le point de départ et le point d'arrivée de la céramique et de la peinture sur toile. Mais il est difficile de développer ce problème en ce moment. Je voulais seulement faire une sorte d'allusion à ces contrastes pourtant si ressemblants, malgré leurs buts et leurs moyens tout à fait différents.
Je vous remercie, Marc Chagall, et j'espère que pendant de longues années encore, vous pourrez ici, dans la quiétude vençoise, travailler. Marc Chagall est depuis quelques jours de retour à Vence, où il a repris son travail quotidien, car je crois que Chagall est non seulement un artiste consciencieux, mais un très gros travailleur. Marc Chagall a beaucoup de pain sur la planche, de très nombreux projets, et je crois que le plus proche, le plus rapproché de ces projets est certainement le ballet Daphnis et Chloé sur une musique de Ravel qui sera donné à l'Opéra pour le 25e anniversaire de la mort de Ravel, et Marc Chagall en a brossé et les décors et les costumes. Marc Chagall, je crois que ce ballet n'est pas récent, n'est-ce pas ? Qu'il avait déjà été monté par Diaghilev. Est-ce que vous avez voulu faire quelque chose de complètement nouveau au point de vue création ?
Vous savez, je ne sais pas si je fais de nouveau. En tout cas, moi, je n'ai pas vu les premiers ballets qui étaient faits par Fokine et par mon premier professeur Baxt. J'aime beaucoup Ravel. J'ai fait des voyages en Grèce. Et voilà, tout simplement, je fais ce que je peux. C'est à vous juger, aux autres, comment, les résultats.
Oui. Est-ce que ce sera un ballet moderne ou un ballet qui conservera son caractère ancien?
Aussi, mais très difficile à vous répondre sur ça. Je ne peux pas vous dire.
Bien. Marc Chagall, si vous voulez, maintenant nous allons parler, puisque le ballet est pour le 24 ou 25 décembre, je crois, nous allons parler un peu de vos projets de peinture et d'illustration. Nous savons que plusieurs livres sont sortis cet an dernier, des livres qui non seulement vous concernent, mais également des livres de vous illustrés par vous. Pourriez-vous nous en parler et nous les citer?
Justement, j'ai commencé les Fables La Fontaine pour mon ami l'éditeur Thériade, il y a déjà bien 4 ans. C'est justement pour ce livre que j'ai fait les voyages en Grèce. Et ce livre, avec 42 lithographies, sera prêt, je crois, l'année prochaine. C'est justement ce voyage que j'ai fait en Grèce qui m'a aidé, qui m'a permis de faire les... travailler pour le ballet de Daphnis et Chloé, et je suis content justement que M. Skibin va reprendre la chorégraphie pour ce ballet. Les lithos, je les tire chez la Corrière et j'espère qu'ils seront vraiment terminés, ils donneront une idée, ça donnera ce que ça donnera, quoi.
Et d'autre part, le critique d'art Jacques Lassaigne vient de sortir chez l'éditeur Macne un livre sur vous, un Chagall, et je crois que vous avez placé également dans ce livre des dessins et des lithos originales, n'est-ce pas?
Oui, il y en a des lithos originales et il y en a des dessins, il y en a des photos, des reproductions en colère, et je crois que ça fait une impression pas mal. Les textes de Lassaigne sont très compréhensibles. Bien, encore une fois, ce n'est pas à moi à juger.
Et en même temps, Marc Chagall, vous avez travaillé avec Jean Paulhan, qui a écrit spécialement pour vous un texte que vous avez illustré.
Oui, j'ai fait pour lui une dizaine de lignes de gravures en colère pour une nouvelle qui s'appelle « Le mauvais sujet ». Je suis ami avec Paulhan peut-être une quarantaine d'années.
Et peut-on savoir déjà ce que ce sujet, ce mauvais sujet, représente?
Ah non, ça, je vous conseille, mais ne pas demander. Il est difficile de raconter Jean Paulhan. Tout le monde le connaît, c'est un homme fantastique, il écrivait aussi. Vous allez voir ce que vous allez voir et lire.
Marc Chagall, maintenant je vais me permettre peut-être une petite indiscrétion, une grosse indiscrétion, je ne sais pas, mais on parle depuis fort longtemps de projets à Vence. Et cela fait déjà plusieurs années d'ailleurs, on parle toujours de soit de chapelle, soit de musée décoré par Marc Chagall. Est-ce que vous y pensez toujours?
Je pense à une seule chose, c'est travailler. J'ai travaillé, j'ai terminé. Il n'y a pas longtemps, la création de l'homme. J'ai terminé deux de la salle des cantiques. Je fais une quarantaine d'esquisses. Je vais travailler et après on verra. Ce n'est pas à moi de faire des projets, des autres projets qui de travailler. Et ce n'est pas moi qui peux m'occuper de toutes ces choses techniques, etc., etc. Et j'attends et je travaille.
Marc Chagall, maintenant, j'aimerais savoir si vous avez des expositions en vue.
Je crois que j'aurai des expositions, mais c'est un peu trop tôt. Ce sera dans un musée d'Allemagne, un musée en France, un pavillon de Marsan, mais je préfère parler en détail quand ce sera plus près, dans l'année prochaine.
Eh bien, Marc Chagall, je vous remercie infiniment de nous avoir donné toutes ces précisions et j'espère que vous continuerez à peindre très longtemps pour notre plaisir à tous. Merci. Très prochainement va avoir lieu à la Galerie des Planchettes à Nice, la seconde exposition Marc Chagall. La première, vous vous en souvenez, fut une grande exposition rétrospective des œuvres de Marc Chagall. Mais cette fois-ci, Marc Chagall, pourriez-vous nous dire si cette exposition à la Galerie des Planchettes est strictement une exposition de votre œuvre gravée et de vos illustrations?
C'est un choix de gravure commencé vers 1922 sur la commande de l'éditeur allemand Cassirer à Berlin, pour qui je fais ma vie. Et la rencontre avec le grand éditeur Ambroise Vollard à Paris, qui m'a commandé Les âmes mortes, Les fables La Fontaine et la Bible, reprise ensuite par mon ami et grand éditeur Thériade. À cette exposition est également présenté un choix de lithographies qui ont été éditées par Magde. Il a aussi quelques litos de Mille et Nuits, exécutés pendant la guerre à New York, et d'autres. Je fais environ 500 ou peut-être 600 planches, parmi lesquelles il faut faire un choix. Il n'est pas possible de tout exposer.
Oui, et maintenant, pourriez-vous nous dire quelles sont les œuvres principales de votre carrière d'illustrateur?
Je ne peux pas parler personnellement de mon travail au sujet duquel j'ai, comme toujours, beaucoup de doutes. Mais je peux dire que je suis très content d'avoir fait Les âmes mortes, un signe d'amour pour mon pays d'origine, d'avoir fait Les fables de La Fontaine, un symbole d'amour pour ma deuxième patrie, de toute l'humanité, d'avoir fait la Bible, symbole religieux et culturel. Je suis content que mon ami Thériade m'a donné l'occasion d'exprimer mon amour pour la Grèce en faisant Daphné et Chloé. Je ne peux pas parler de toutes les autres planches et lithographies dont la plus grande partie a été éditée par Marc. Mais je suis heureux que cette exposition est liée au Ponchet à Nice. Dans la région où j'habite, je profite de cette occasion pour transmettre mes remerciements à la municipalité de Nice pour son accueil dans sa galerie et à Madame Ferry qui y travaille avec tant de passion et de connaissances.
Est-ce que cette exposition a déjà été présentée autre part?
Oui, cette exposition a été présentée à l'occasion de la sortie de la Bible à la Bibliothèque nationale de Paris. Elle a été présentée après au musée de Bâle, en Suisse, en Californie, au musée de Pasadena et actuellement à New York, au musée de Modern Art. En 1956, elle a été exposée à Berne chez Klipstein. Une grande partie de mes lithographies a été exposée. La Bible également a été exposée dans tous les musées d'Israël, dans quelques villes de France et en Allemagne, entre autres à Berlin.
Eh bien, Marc Chagall, je vais me permettre de vous poser une dernière question. Je sais que vous avez créé, à la demande du père Couturier et du père Demini, 5 œuvres qui sont placées maintenant, d'ailleurs, dans cette fameuse chapelle du plateau d'Assis. Il y a des vitraux, des bas-reliefs représentant les psaumes de David et une grande céramique représentant la traversée de la mer Rouge. Mais pourriez-vous nous dire si vous avez, en dehors de ces œuvres déjà créées, d'autres projets?
Oui, actuellement, je suis occupé par la préparation de 2 vitraux destinés à la cathédrale de Metz qui m'ont été demandés par le monument historique. Et aussi au décor et costumes pour Daphné et Chloé, demandé par l'Opéra de Paris à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Ravel. Mon rêve est de réaliser une suite biblique. J'ai déjà fait toutes les esquisses et quelques murales pour une sorte de bâtiment dont le nom est à trouver et qui, je l'espère, sera placé sur le territoire de la commune de Vence où j'habite ou ailleurs.
Eh bien, Marc Chagall, je vous remercie. Nous attendons avec impatience cette exposition à la Galerie des Ponchettes. Et j'espère, d'autre part, que nous aurons aussi l'occasion un jour d'admirer cette chapelle, dirons-nous. Peut-être portera-t-elle un autre nom. Et j'espère surtout c'est qu'elle se trouvera dans cette région de la Méditerranée.
La ville de Nice a sans doute un grand rôle à remplir en ce qui concerne le domaine des arts et plus précisément en ce qui concerne les peintres. Ce n'est pas un hasard si, après Renoir, après Bonnard, des peintres comme Matisse, Picasso et Chagall sont venus s'établir sur les bords de la Méditerranée et trouver dans la lumière une nouvelle source d'inspiration. C'est pourquoi, après l'exposition consacrée au peintre Henri Matisse, voici que s'ouvre à la Galerie des Ponchettes une exposition consacrée aux œuvres du merveilleux artiste Marc Chagall. Et si j'emploie le mot merveilleux, c'est dans son sens le plus précis, dans le sens où l'on peut parler d'un univers grandiose et merveilleux. L'importance de cette exposition et la signification qu'elle prend aujourd'hui donnent à cette manifestation toute l'ampleur que méritait l'un des grands maîtres de la peinture actuelle. Et ce maître de la peinture actuelle nous fait l'honneur de venir dans notre studio et nous lui demanderons dans un instant de nous dire quelques mots. Je vais tout d'abord m'adresser à Madame Guinet, la directrice des musées de Nice, qui, pour cette exposition a fait preuve de tout le dévouement, de toute la compétence et aussi de tout l'amour de la peinture dont elle est capable. Voulez-vous, Madame Guinet, nous dire quel est votre sentiment à la veille de l'ouverture de cette exposition des œuvres de Marc Chagall?
Je dirais que c'est un des privilèges de cette côte, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qui fut au cours des siècles l'inspiratrice des plus grands maîtres de notre histoire, d'être toujours de notre temps la terre d'élection d'un si grand nombre d'artistes célèbres que nos visiteurs américains la nomment la Toscane du XXe siècle. Nice, qui est en somme la capitale de cette nouvelle Toscane, se doit de suivre la tradition qu'elle a instaurée avec l'exposition Matisse et projette de montrer tour à tour à ses visiteurs et à ses habitants des chefs-d'œuvre qui, chaque jour, depuis des générations, naissent sous son ciel. Son but sera donc et de glorifier les vivants et de célébrer la mémoire de ses hôtes illustres, aujourd'hui disparus. Lorsque je suis arrivée à Nice pour prendre mon poste à la direction des musées il y a 2 mois, Nice, imitant New York, Paris et Londres, se proposait d'ouvrir la saison de 1952 par une exposition dédiée au maître Chagall. J'ai été chargée de l'organiser et rien ne pouvait m'être plus agréable.
Mais était-ce la première fois que vous rencontriez le maître Chagall?
Non, et justement, mon plaisir est d'autant plus grand que j'avais eu l'occasion de le connaître lors de son retour d'Amérique, quand en 1947, mes collègues Jean Cassou et Bernard Dorival ont organisé au Musée d'Art Moderne, sous l'égide de la direction des musées nationaux, leur première exposition qui précisément était destinée à montrer au public parisien les œuvres de Chagall. À ce moment, les choses étaient encore difficiles, le papier et les clous étaient contingentés, et Chagall et sa fille Ida me rappelaient ces jours-ci combien notre petit catalogue fut modeste et avec quelles difficultés nous nous étions procuré les clous nécessaires à l'accrochage.
Mais je pense qu'aujourd'hui, vous vous êtes heurté à moins de difficultés pour l'exposition de Nice.
Aujourd'hui, tout a été facile et tout a été charmant. Je dois dire que ces 3 jours passés à accrocher en compagnie du maître et de sa fille, aidés par le personnel de nos musées de Nice, resteront un de mes plus agréables souvenirs. L'accrochage est pour le conservateur le moment où il est en contact direct avec les œuvres d'art. Et c'est sans doute un des instants les plus passionnants de son travail.
Je vous remercie beaucoup, Madame Guinet, d'avoir bien voulu nous donner ces précisions. Et je suis sûr d'être l'interprète de tous en vous exprimant notre reconnaissance pour ce que vous faites et ce que vous ferez à Nice pour la peinture. Je crois que vous voulez encore ajouter un petit mot, et je vous en prie.
Je voulais dire que puisque Chagall a porté bonheur à mes collègues du Musée national d'art moderne, il me semble de bon augure de commencer moi aussi mon travail à Nice par une exposition Chagall. Et je souhaite à cette exposition la plus grande réussite et le plus grand succès auprès de notre public.
Je vais maintenant faire place au maître Marc Chagall et lui demander notamment de nous parler de la Côte d'Azur, de sa lumière, de cet univers qui maintenant appartient aussi à l'univers enchanté de son œuvre.
Je suis ému du fond de cœur de voir mes tableaux sur le même mur où étaient accrochés, il n'y a pas longtemps, ceux de notre grand aîné, Henri Matisse. Je suis touché plus que je puis le dire. Je suis reconnaissant au comité de cette exposition, à la direction des Beaux-Arts et des Musées nationaux, à la ville de Nice, à Madame Guinet, à l'Union méditerranéenne pour l'art moderne et à tous ceux qui ont tant travaillé. Il y a plus de 40 ans, jeune et pauvre, je suis arrivé de ma ville natale, de Vitebsk, en France. Je suis arrivé avec un seul but, voir une couleur nouvelle, inconnue, une couleur qui m'apparaissait comme un songe et qui rien ne voilait. les musées de l'art français m'ont fait entrevoir un monde nouveau. Les amis poètes Apollinaire, Sandrart, Canudo, Max Jacob, André Salmon et les autres m'ont encouragé. La nature même, les hommes, leur aspect furent pour moi plus que de l'académie. J'ai commencé à sentir ce qui pouvait être une couleur qui serait comme un rayon de liberté, source et fondement de l'art. En parlant ainsi de la couleur, je ne pense pas à cette couleur purement décorative ou même abstraite, puisque la couleur d'un lénin ou d'un chardin me semble hautement pure. Et j'ai compris que cette couleur liberté vivait en France depuis des siècles, que tout ce qui était authentique dans le monde de l'art passait par Paris et par la France. Et ce qui fut plus essentiel encore que de découvrir en quoi consistait cette pureté de la couleur, c'est d'apercevoir les tons justes, tels une règle d'or en musique, qui servirait de clé au développement de ta propre personnalité la plus absolue dans sa diversité nationale et internationale. Ainsi, la France devient telle un temple où ses créateurs créent chacune leur religion. Mais celui qui possède la couleur crée une seule religion, la religion de l'amour et de l'humanisme. J'aurais pu rester dans ma pauvre ville natale, sans droit sous le tsar. J'aurais été peut-être un artisan quelconque dans ma rue. Je me serais noyé dans mes marrons et mes gris, couleur qui n'aurait rien à voir en général avec les marrons et les gris des Daumiers ou du Corot. Presque toute ma vie s'est passée ici, sur la terre de France, mais je n'ai rien régné. Ici, dans le midi, j'ai vu pour la première fois les fleurs. Il m'a semblé qu'ils ont transformé ma palette. Ici, en France, j'ai connu Ambroise Vollard, qui m'a introduit dans le monde de la gravure. Il y a presque 30 ans, j'ai commencé pour lui le grand livre illustré des Amours de Gogol, les Fables La Fontaine et la Bible, lesquels, après sa mort, ont été repris par mon ami et le grand éditeur Thériade. Ici, dans le midi, j'ai la révélation de cette terre et du feu qui m'ont ouvert le monde de la céramique. Je sais que mes paroles résonnent faiblement aujourd'hui. Qui valent-elles dans un monde de force physique? Qui veut dire aujourd'hui la couleur de l'âme ou sa vérité colorée? Mais toutefois, il n'y a pas de meilleur endroit qu'en France de parler de cela. Il semble que les pierres même du chemin t'écoutent et te comprennent. Tu peux sortir en plein champ, parler des problèmes de l'art, de la liberté, de la poésie, des couleurs et des lignes, des zigzags et des courbes de ton propre esprit. Quelque chose dans cette nature prête l'oreille. Et comme une lointaine écho, te répond. Pour tout cela et pour beaucoup d'autres choses, je vous suis reconnaissant.
Ce que vient de dire le maître Marc Chagall prend aujourd'hui un sens tout particulier. et nous le remercions de l'avoir exprimé avec une telle foi. Les visiteurs du musée des Ponchettes pourront méditer avec profit ces paroles, et passant devant l'étoile du grand artiste, ils pourront aussi se souvenir de ce poème écrit par Jacques Maritain dans un livre consacré à Marc Chagall, et dont le titre « Orages enchantés » résume si exactement l'univers chagallien. Voici ce poème. Sans demeure que le ciel, comme l'oiseau sur la branche, sur les branches de la croix, sera ton repos cruel. Dans la paix de ce refuge, amertume très amère, repose comme l'oiseau sans racine dans la terre, sur cet arbre où meurt ton Dieu.
Et Marc Chagall, lui aussi, est avance. Nous l'avons découvert dans son ermitage, un ermitage ensoleillé. On y parvient par une rampe douce, au milieu des arbres, des oliviers, dans cette magnifique campagne, ensoleillée et tellement délicieuse. Marc Chagall, vous êtes un grand voyageur. Vous avez vu, vraiment, vous avez votre palette un peu partout dans le monde, vous l'avez promenée. Pourquoi êtes-vous venu avance, Marc Chagall?
Vous savez, vraiment, j'avais une chance une nuit de découvrir ce village, ce Vence. Je crois que je ne le mérite même pas. C'est, pour moi, c'est un miracle. Alors, je m'installais ici. Je savais bien que Renoir habitait pas loin, le grand Renoir. Le grand Bonnard habitait ici. Il a découvert des miracles dans la peinture. Eh bien, je me lançais. Par hasard, j'ai trouvé une merveilleuse maison et je me prépare de faire quelque chose, de faire de la peinture.
Enfin, direz-vous plaisamment, Marc Chagall, enfin vous allez faire quelque chose. C'est très plaisant. Marc Chagall, je sais aussi que maintenant vous avez un violon d'Ingres. Vous avez également la céramique. Parlez-nous de cette céramique. Est-ce la glaise de Vence qui vous a attiré?
Eh bien, je dois vous dire, franchement, c'est encore une découverte pour moi, cette terre glaise. J'ai commencé, je voulais faire un petit peu la céramique. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Tout à coup, j'ai... comme une chose, une brûlure dans la main, cette terre glaise, ça m'a commencé à chatouiller et j'ai découvert que ce n'est pas une aquarelle, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas une gravure, c'est la céramique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une chose spéciale. Et je suppose que maintenant, peut-être, je commence à deviner qu'est-ce que c'est et je fais en tout une 25 pièces. Quand j'aurai une centaine, eh bien, ou 60 ou 75, j'exposerai, vous allez voir, vous allez juger.
Mais j'ai déjà vu, Marc Chagall, j'ai vu ces admirables plats. Je sais que ces plats, vous les faites de vos mains dans cette magnifique terre de Vence, et je sais que vous les mettez au four avec cette inquiétude de l'artiste qui attend au fond la sortie du four, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela va donner? Ces coloris sont admirables. Vraiment, ce sont des compositions absolument splendides. Marc Chagall, je voudrais que vous fassiez beaucoup de céramique et aussi que vous n'abandonniez pas votre palette. Marc Chagall, pour terminer, nous ne voulons pas vous importuner davantage. Encore un mot sur cette terre magnifique, cette terre vençoise qui vous a accueilli et vous gardera, j'espère.
Eh bien, vous savez, je répète, le mot paradis est vraiment n'est pas exagéré. Faites attention à Vence, c'est un endroit vraiment magnifique. Et pour un artiste, c'est une grande responsabilité d'habiter ici.
Quelle jolie chose vous venez de nous dire. Merci, Marc Chagall.
Marc Chagall, pourriez-vous me dire quand vous êtes venu pour la première fois en Provence?
Je suis arrivé ici vers les années 1923-24, quand Vollard me demanda de faire de l'illustration de Fable de la Fontaine. Je voulais me baigner dans l'atmosphère des rêves réels. Je voulais trouver quelque chose qui ne ressemble pas à Vitebsk et même qui ne ressemble pas à Paris. Je me suis arrêté d'abord à Marseille, puis à Toulon, et après à Nice. Et j'ai terminé dans le midi toutes les maquettes pour le Fable de la Fontaine. Et c'est là que je fais pour la première fois connaissance avec le monde des fleurs qui me sont apparues comme une sorte de mille et une nuits dans la peinture. Ces voyages dans le midi, le deuxième événement dans ma vie. Le premier, étant mon arrivée à Paris en 1911.
Est-ce que son climat vous incite au travail?
Pas seulement, mais il me semble qu'il m'invite au travail. Il emplit mon organisme d'une air spéciale et même d'une flamme de laquelle on ne peut se libérer qu'en travaillant. Comme on peut. Mais pour sentir ça, il devait se produire la révolution, la guerre, l'immigration et beaucoup d'autres choses.
Et est-ce que la lumière vous attire?
La lumière? Oui. Il me semble que je ne sens que cette lumière d'ici. Et même ma ville natale me semble maintenant pareille à une bougie blanche qui ne brûle plus. Mais peut-être c'est le écho lointain des sons méditerranéens qui sont en moi, je ne sais pas.
Pourquoi êtes-vous venu à Vence?
Vence, ce nom avant tout sonne si bien. On sent ici une douceur. Et après Bella, il me semble que Vence la Jolie lui ressemble, et maintenant encore deux ou trois fois plus.
Vous savez, vraiment, j'avais une chance une nuit de découvrir ce village, ce Vence. Je crois que je ne le mérite même pas. C'est, pour moi, c'est un miracle. Alors, je m'installais ici. Je savais bien que Renoir habitait pas loin. Le grand Renoir. Le grand Bonnard habitait ici. Il a découvert des miracles dans la peinture. Eh bien, je me lançais. Par hasard, j'ai trouvé une merveilleuse maison. Et je me prépare de faire quelque chose. C'est encore une découverte pour moi, cette terre glaise. J'ai commencé, je voulais faire un petit peu la céramique. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Tout à coup, j'ai comme une chose, une brûlure dans la main, cette terre glaise. Ça m'a commencé à chatouiller. Et j'ai découvert que ce n'est pas une aquarelle, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas une gravure, c'est la céramique. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est une chose spéciale. Et je suppose que maintenant, peut-être, je commence à deviner qu'est-ce que c'est. Et je fais en tout une 25 pièces. Quand j'aurai une centaine, eh bien, ou 60 ou 75, j'exposerai. Vous allez voir, vous allez juger. Eh bien, vous savez, je répète, le mot paradis est vraiment n'est pas exagéré. Faites attention à Vence, c'est un endroit vraiment magnifique. Et pour un artiste, c'est une grande responsabilité d'habiter ici.
Marc Chagall, pourriez-vous me dire quand vous êtes venu pour la première fois en Provence?
Je suis arrivé ici vers les années 1923-24, quand Vollard me demanda de faire des illustrations de fables de La Fontaine. Je voulais me baigner dans l'atmosphère des rêves réels. Je voulais trouver quelque chose qui ne ressemble pas à Vitebsk et même qui ne ressemble pas à Paris. Je me suis arrêté d'abord à Marseille, puis à Toulon, et après à Nice. Et j'ai terminé dans le midi toutes les maquettes pour les fables de La Fontaine. Et c'est là que je fais pour la première fois connaissance avec le monde des fleurs qui me sont apparues comme une sorte de mille et une nuits dans la peinture. Ces voyages dans le midi fut le deuxième événement de ma vie, le premier étant mon arrivée à Paris en 1911.
Est-ce que son climat vous incite au travail?
Pas seulement, mais il me semble qu'il m'invite au travail. Il emplit mon organisme d'une air spéciale et même d'une flamme de laquelle on ne peut se libérer qu'en travaillant. Comme on peut. Mais pour sentir ça, il devait se produire la révolution, la guerre, l'immigration et beaucoup d'autres choses.
Et est-ce que la lumière vous attire?
La lumière? Oui. Il me semble que je ne sens que cette lumière d'ici. Et même ma ville natale me semble maintenant
pareil à une bougie blanche qui ne brûle plus. Mais peut-être, c'est l'écho lointain des sons méditerranéens qui sont en moi, je ne sais pas.
Pourquoi êtes-vous venu à Vence?
Vence, ces noms avant tout sont si bien. On sent ici une douceur et après Bella, il me semble que Vence la Jolie lui ressemble et maintenant encore deux ou trois fois plus. Costume pour Aleko, sur la musique de Tchaïkovski et la chorégraphie de Mertine, et le deuxième, L'oiseau de feu, sur la musique de Stravinsky et la chorégraphie de Balanchine. En ce moment, il me semble que je suis un peu refroidi. Enfin, je pense que nous avons assez parlé et que c'est mieux de travailler.
Eh bien, je suis tout à fait de votre avis, Marc Chagall, surtout que Votre travail est pour nous une joie, mais j'espère tout de même qu'un jour vous reviendrez au décor de ballet et de théâtre. Merci infiniment.
La ville de Nice a sans doute un grand rôle à remplir en ce qui concerne le domaine des arts et plus précisément en ce qui concerne les peintres. Ce n'est pas un hasard si après Renoir, après Bonnard, des peintres comme Matisse, Picasso et Chagall sont venus s'établir sur les bords de la Méditerranée et trouver dans la lumière une nouvelle source d'inspiration. C'est pourquoi, après l'exposition consacrée au peintre Henri Matisse, voici que s'ouvre à la Galerie des Ponchettes une exposition consacrée aux œuvres du merveilleux artiste Marc Chagall. Et si j'emploie le mot « merveilleux », c'est dans son sens le plus précis, dans le sens où l'on peut parler d'un univers grandiose et merveilleux. L'importance de cette exposition et la signification qu'elle prend aujourd'hui donnent à cette manifestation toute l'ampleur que méritait l'un des grands maîtres de la peinture actuelle. Et ce maître de la peinture actuelle nous fait l'honneur de venir dans notre studio et nous lui demanderons dans un instant de nous dire quelques mots. Je vais tout d'abord m'adresser à Madame Guinet, la directrice des musées de Nice, qui, pour cette exposition, a fait preuve de tout le dévouement, de toute la compétence et aussi de tout l'amour de la peinture dont elle est capable. Voulez-vous, Madame Guinet, nous dire quel est votre sentiment à la veille de l'ouverture de cette exposition des œuvres de Marc Chagall?
Je dirais que c'est un des privilèges de cette côte, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qui fut au cours des siècles l'inspiratrice des plus grands maîtres de notre histoire, d'être toujours de notre temps la terre d'élection d'un si grand nombre d'artistes célèbres que nos visiteurs américains la nomment la Toscane du XXe siècle. Nice, qui est en somme la capitale de cette nouvelle Toscane, se doit de suivre la tradition qu'elle a instaurée avec l'exposition Matisse et projette de montrer tour à tour à ses visiteurs et à ses habitants des chefs-d'œuvre qui chaque jour depuis des générations naissent sous son ciel. Son but sera donc et de glorifier les vivants et de célébrer la mémoire de ces hôtes illustres, aujourd'hui disparus. Lorsque je suis arrivée à Nice pour prendre mon poste à la direction des musées il y a 2 mois, Nice, imitant New York, Paris et Londres, se proposait d'ouvrir la saison de 1952 par une exposition dédiée au maître Chagall. J'ai été chargée de l'organiser et rien ne pouvait m'être plus agréable.
Mais était-ce la première fois que vous rencontriez le maître Chagall?
Non, et justement, mon plaisir est d'autant plus grand que j'avais eu l'occasion de le connaître lors de son retour d'Amérique, quand en 1947, mes collègues Jean Cassou et Bernard Dorival ont organisé au Musée d'art moderne, sous l'égide de la direction des musées nationaux, leur première exposition qui précisément était destinée à montrer au public parisien les œuvres de Chagall. À ce moment, les choses étaient encore difficiles, le papier et les clous étaient contingentés, et Chagall et sa fille Ida me rappelaient ces jours-ci combien notre petit catalogue fut modeste et avec quelle difficulté nous nous étions procuré les clous nécessaires à l'accrochage.
Mais je pense qu'aujourd'hui, vous vous êtes heurté à moins de difficultés pour l'exposition de Nice.
Aujourd'hui, tout a été facile et tout a été charmant. Je dois dire que ces 3 jours passés à accrocher, en compagnie du maître et de sa fille, aidés par le personnel de le musée de Nice, resteront un de mes plus agréables souvenirs. L'accrochage est pour le conservateur le moment où il est en contact direct avec les œuvres d'art. Et c'est sans doute un des instants les plus passionnants de son travail.
Je vous remercie beaucoup, Madame Guinet, d'avoir bien voulu nous donner ces précisions. Et je suis sûr d'être l'interprète de tous en vous exprimant notre reconnaissance pour ce que vous faites et ce que vous ferez à Nice pour la peinture. Je crois que vous voulez encore ajouter un petit mot et je vous en prie.
Je voulais dire que puisque Chagall a porté bonheur à mes collègues du Musée national d'art moderne, il me semble de bon augure de commencer moi aussi mon travail à Nice par une exposition Chagall. Et je souhaite à cette exposition la plus grande réussite et le plus grand succès auprès de notre public.
Je vais maintenant faire place au maître Marc Chagall et lui demander notamment de nous parler de la Côte d'Azur, de sa lumière, de cet univers qui maintenant appartient aussi à l'univers enchanté de son œuvre.
Je suis ému du fond de cœur de voir mes tableaux sur le même mur où étaient accrochés il n'y a pas longtemps ceux de notre grand aîné, Henri Matisse. Je suis touché plus que je puis le dire. Je suis reconnaissant au comité de cette exposition, à la direction des Beaux-Arts et des Musées nationaux, à la ville de Nice, à Madame Guinet, à l'Union méditerranéenne pour l'art moderne et à tous ceux qui ont tant travaillé. Il y a plus de 40 ans, jeune et pauvre, je suis arrivé de ma ville natale, de Vitebsk, en France. Je suis arrivé avec un seul but, voir une couleur nouvelle, inconnue, une couleur qui m'apparaissait comme un songe et qui rien ne voilait. Les musées de l'art français m'ont fait entrevoir un monde nouveau. Les amis poètes Apollinaire, Sandra, Canudo, Max Jacob, André Salmon et les autres m'ont encouragé. La nature même, les hommes, leur aspect furent pour moi plus que de l'académie. J'ai commencé à sentir ce qui pouvait être une couleur. Une couleur qui serait comme un rayon de liberté, source et fondement de l'art. En parlant ainsi de la couleur, je ne pense pas à cette couleur purement décorative ou même abstraite. Puisque la couleur d'une lénin ou d'un jardin me semble hautement pure. Et j'ai compris que cette couleur liberté vivait en France depuis des siècles. Que tout qui était authentique dans le monde de l'art, passé par Paris et par la France. Et ce qui fut plus essentiel encore que de découvrir en quoi consistait cette pureté de la couleur, c'est d'apercevoir les tons justes, tels une règle d'or en musique, qui servirait de clé au développement de ta propre personnalité la plus absolue dans sa diversité nationale et internationale. Ainsi, la France devient telle un temple où ses créateurs créent chacune leur religion. Mais celui qui possède la couleur crée une seule religion, la religion de l'amour et de l'humanisme. J'aurais pu rester dans ma pauvre ville natale, sans droit sous le tsar. J'aurais été peut-être un artisan quelconque dans ma rue. je me serais noyé dans mes marrons et mes gris, couleur qui n'aurait rien à voir en général avec les marrons et les gris du Daumier ou du Corot. Presque toute ma vie s'est passée ici, sur la terre de France, mais je n'ai rien régné. Ici, dans le midi, je vis pour la première fois les fleurs. Il m'a semblé qu'ils ont transformé ma palette. Ici, en France, j'ai connu Ambroise Vollard, qui m'a introduit dans le monde de la gravure. Il y a presque 30 ans, j'ai commencé pour lui le grand livre illustré des Amours de Gogol, les Fables La Fontaine et la Bible, lesquels, après sa mort, ont été repris par mon ami et le grand éditeur Thériade. Ici, dans le midi, j'ai la révélation de cette terre et du feu qui m'ont ouvert le monde de la céramique. Je sais que mes paroles résonnent faiblement aujourd'hui. Qui valent-elles dans un monde de force physique? Qui veut dire aujourd'hui la couleur de l'âme ou sa vérité colorée? Mais toutefois, il n'y a pas de meilleur endroit qu'en France de parler de cela. Il semble que les pierres mêmes du chemin t'écoutent et te comprennent. Tu peux sortir en plein champ, parler des problèmes de l'art, de la liberté, de la poésie, des couleurs et des lignes, des zigzags et des courbes de ton propre esprit. Quelque chose dans cette nature prête l'oreille et comme une lointaine écho, te répond. Pour tout cela et pour beaucoup d'autres choses, je vous suis reconnaissant.
Ce que vient de dire le maître Marc Chagall prend aujourd'hui un sens tout particulier et nous le remercions de l'avoir exprimé avec une telle foi. Les visiteurs du musée des Ponchettes pourront méditer avec profit ces paroles et, passant devant l'étoile du grand artiste, ils pourront aussi se souvenir de ce poème écrit par Jacques Maritain dans un livre consacré à Marc Chagall et dont le titre « Orages enchantés » résume si exactement l'univers chagallien. Voici ce poème. « Sans demeure que le ciel, comme l'oiseau sur la branche, sur les branches de la croix, sera ton repos cruel. Dans la paix de ce refuge, amertume très amère, repose comme l'oiseau sans racine dans la terre, sur cet arbre où meurt ton Dieu. » La ville de Nice a sans doute un grand rôle à remplir en ce qui concerne le domaine des arts et plus précisément en ce qui concerne les peintres. Ce n'est pas un hasard si, après Renoir, après Bonnard, des peintres comme Matisse, Picasso et Chagall sont venus s'établir sur les bords de la Méditerranée et trouver dans la lumière une nouvelle source d'inspiration. C'est pourquoi, après l'exposition consacrée au peintre Henri Matisse, voici que s'ouvre à la Galerie des Ponchettes une exposition consacrée aux œuvres du merveilleux artiste Marc Chagall. Et si j'emploie le mot merveilleux, c'est dans son sens le plus précis, dans le sens où l'on peut parler d'un univers grandiose et merveilleux. L'importance de cette exposition et la signification qu'elle prend aujourd'hui donnent à cette manifestation toute l'ampleur que méritait l'un des grands maîtres de la peinture actuelle. Et ce maître de la peinture actuelle nous fait l'honneur de venir dans notre studio et nous lui demanderons dans un instant de nous dire quelques mots. Je vais tout d'abord m'adresser à Madame Guinet, la directrice des musées de Nice, qui, pour cette exposition, a fait preuve de tout le dévouement, de toute la compétence et aussi de tout l'amour de la peinture dont elle est capable. Voulez-vous, Madame Guinet, nous dire quel est votre sentiment à la veille de l'ouverture de cette exposition des œuvres de Marc Chagall.
Je dirais que c'est un des privilèges de cette côte, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, qui fut au cours des siècles l'inspiratrice des plus grands maîtres de notre histoire, d'être toujours de notre temps la terre d'élection d'un si grand nombre d'artistes célèbres que nos visiteurs américains la nomment la Toscane du XXe siècle. Nice, qui est en somme la capitale de cette nouvelle Toscane, se doit de suivre la tradition qu'elle a instaurée avec l'exposition Matisse et projette de montrer tour à tour à ses visiteurs et à ses habitants des chefs-d'œuvre qui, chaque jour, depuis des générations, naissent sous son ciel. Son but sera donc et de glorifier les vivants et de célébrer la mémoire de ces hôtes illustres, aujourd'hui disparus. Lorsque je suis arrivée à Nice pour prendre mon poste à la direction des musées il y a 2 mois, Nice, imitant New York, Paris et Londres, se proposait d'ouvrir la saison de 1952 par une exposition dédiée au maître Chagall. J'ai été chargée de l'organiser et rien ne pouvait m'être plus agréable.
Mais était-ce la première fois que vous rencontriez le maître Chagall ?
Non, et justement, j'avais mon plaisir est d'autant plus grand que j'avais eu l'occasion de le connaître lors de son retour d'Amérique, quand en 1947, mes collègues Jean Cassou et Bernard Dorival ont organisé au musée d'art moderne, sous l'égide de la direction des musées nationaux, leur première exposition qui précisément était destinée à montrer au public parisien les œuvres de Chagall. À ce moment, les choses étaient encore difficiles, le papier et les clous étaient contingentés, et Chagall et sa fille Ida me rappelaient ces jours-ci combien notre petit catalogue fut modeste et avec quelles difficultés nous nous étions procurés les clous nécessaires à l'accrochage.
Mais je pense qu'aujourd'hui, vous vous êtes heurté à moins de difficultés pour l'exposition de Nice.
Aujourd'hui, tout a été facile et tout a été charmant. Je dois dire que ces 3 jours passés à accrocher, en compagnie du maître et de sa fille, aidés par le personnel de nos musées de Nice, resteront un de mes plus agréables souvenirs. L'accrochage est pour le conservateur le moment où il est en contact direct avec les œuvres d'art. Et c'est sans doute un des instants les plus passionnants de son travail.
Je vous remercie beaucoup, Madame Guinet, d'avoir bien voulu nous donner ces précisions. Et je suis sûr d'être l'interprète de tous en vous exprimant notre reconnaissance pour ce que vous faites et ce que vous ferez à Nice pour la peinture. Je crois que vous voulez encore ajouter un petit mot et je vous en prie.
Je voulais dire que puisque Chagall a porté bonheur à mes collègues du Musée national d'art moderne, il me semble de bon augure de commencer moi aussi mon travail à Nice par une exposition Chagall. Et je souhaite à cette exposition la plus grande réussite et le plus grand succès auprès de notre public.
Je vais maintenant faire place au maître Marc Chagall et lui demander notamment de nous parler de la Côte d'Azur, de sa lumière, de cet univers qui maintenant appartient aussi à l'univers enchanté de son œuvre.
Je suis ému du fond de cœur de voir mes tableaux sur le même mur où étaient accrochés il n'y a pas longtemps ceux de notre grand aîné Henri Matisse. Je suis touché plus que je puis le dire. Je suis reconnaissant au comité de cette exposition, à la direction des Beaux-Arts et des Musées nationaux, à la ville de Nice, à Madame Guinet, à l'Union méditerranéenne pour l'art moderne et à tous ceux qui ont tant travaillé. Il y a plus de 40 ans, jeune et pauvre, je suis arrivé de ma ville natale, de Vitebsk, en France. Je suis arrivé avec un seul but, voir une couleur nouvelle, inconnue, une couleur qui m'apparaissait comme un songe et qui rien ne voilait. Les musées de l'art français m'ont fait entrevoir un monde nouveau. Les amis poètes Apollinaire,
Sandra, Canudo, Max Jacob, André Salmon et les autres m'ont encouragé. La nature même, les hommes, leur aspect furent pour moi plus que de l'académie. J'ai commencé à sentir ce qui pouvait être une couleur. Une couleur qui serait comme un rayon de liberté, source et fondement de l'art. En parlant ainsi de la couleur, je ne pense pas à cette couleur purement décorative ou même abstraite. Puisque la couleur d'un lénin ou d'un jardin me semble hautement pure. Et j'ai compris que cette couleur liberté vivait en France depuis des siècles, que tout ce qui était authentique dans le monde de l'art passait par Paris et par la France. Et ce qui fut plus essentiel encore que de découvrir en quoi consistait cette pureté de la couleur, c'est d'apercevoir les tons justes, tels une règle d'or en musique, qui servirait de clé au développement de ta propre personnalité la plus absolue dans sa diversité nationale et internationale. Ainsi, la France devient telle un temple où ses créateurs créent chacune leur religion. Mais celui qui possède la couleur crée une seule religion, la religion de l'amour et de l'humanisme. J'aurais pu rester dans ma pauvre ville natale, sans droit sous le tsar. J'aurais été peut-être un artisan quelconque dans ma rue. Je me serais noyé dans mes marrons et mes gris, couleurs qui n'auraient rien à voir en général avec les marrons et les gris des daumiers ou des coraux. Presque toute ma vie s'est passée ici, sur la terre de France, mais je n'ai rien régné. Ici, dans le midi, je vis pour la première fois les fleurs. Il m'a semblé qu'ils ont transformé ma palette. Ici, en France, je connus Ambroise Vollard, qui m'a introduit dans le monde de la gravure. Il y a presque 30 ans, j'ai commencé pour lui le grand livre illustré des Amours de Gogol, les Fables La Fontaine et la Bible, lesquels, après sa mort, ont été repris par mon ami et le grand éditeur Thériade. Ici, dans le midi, j'ai la révélation de cette terre et du feu qui m'ont ouvert le monde de la céramique. Je sais que mes paroles résonnent faiblement aujourd'hui. Qui valent-elles dans un monde de force physique? Qui veut dire aujourd'hui la couleur de l'âme ou sa vérité colorée? Mais toutefois, il n'y a pas de meilleur endroit qu'en France de parler de cela. Il semble que les pierres même du chemin t'écoutent et te comprennent. Tu peux sortir en plein champ, parler des problèmes de l'art, de la liberté, de la poésie, des couleurs et des lignes, des zigzags et des courbes de ton propre esprit. Quelque chose dans cette nature prête l'oreille. Et comme une lointaine écho, te répond. Pour tout cela et pour beaucoup d'autres choses, je vous suis reconnaissant.
Ce que vient de dire le maître Marc Chagall prend aujourd'hui un sens tout particulier et nous le remercions de l'avoir exprimé avec une telle foi. Les visiteurs du musée des Ponchettes pourront méditer avec profit ces paroles et passant devant l'étoile du grand artiste, ils pourront aussi se souvenir de ce poème écrit par Jacques Maritain dans un livre consacré à Marc Chagall et dont le titre « Orages enchantés » résume si exactement l'univers chagallien. Voici ce poème. Sans demeure que le ciel, comme l'oiseau sur la branche, sur les branches de la croix, sera ton repos cruel. Dans la paix de ce refuge, amertume très amère, repose comme l'oiseau sans racine dans la terre, sur cet arbre où meurt ton Dieu. »